Bonjour à tous. Nous voilà, je crois, connectés sur la bonne page maintenant. Je l'espère, du moins. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite erreur de programmation il y a quelques instants, mais nous y voilà. Oui. Alors, on est le vendredi 16 septembre 2022 et on est donc ici pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine sur une thématique qu'on a entreprise il y a quelques jours, basée sur Hébreux au chapitre 11. La thématique, c'est par la foi. Donc ce matin, on va étudier les versets 5 et 6 du chapitre 11 du livre des Hébreux. Donc Hébreux 11, le verset 5 et 6. Et on va avoir plusieurs passages dans lesquels on va aller se promener aujourd'hui, au moins quatre autres passages. Donc, on vous invite à avoir votre Bible bien prête devant vous, d'avoir aussi crayon et puis papier, pour ceux qui, bien entendu, prennent des notes. Alors, prions, et après ça, je fais la lecture pour ce matin. Merci Jésus pour cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta maison. En tout cas moi dans ta maison, pour nos frères et nos sœurs, chacun dans leur résidence, mais on sait que tu règnes sur chacun d'entre nous et auprès de chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, on te demande d'ouvrir notre entendement, notre pensée, notre compréhension à ta parole. Nous allons voir un homme qui t'était agréable, notre frère et prédécesseur Enoch. Et nous prions, Seigneur, que la parole que nous partagerons aujourd'hui puisse avoir cet effet transformateur en nous, afin de faire de nous aussi des hommes et des femmes qui te sont agréables. Prends contrôle des mots, des paroles, des pensées qui seront partagées ce matin. Nous prions, Seigneur, que notre cœur soit comme une terre bien disposée, bien préparée, à recevoir une semence importante, celle, Seigneur, de tes saintes Écritures. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, garde-nous aujourd'hui et permets-nous de recevoir pleinement, totalement, comme vérité absolue, la parole que nous nous apprêtons à partager, puisque celle-ci vient de toi, est inspirée par toi et préparée par toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, toujours dans Hébreux 11, je lis pour vous les versets 5 et les versets 6. Donc, 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je relis une deuxième fois ces versets. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Petite introduction au personnage biblique qu'on étudie aujourd'hui, comme on l'a fait tout au long de cette semaine, en parlant notamment de Abel, de Caïn, en parlant du livre même aux Hébreux. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite introduction au personnage principal de la journée, Enoch. Alors Enoch est le septième descendant d'Adam dans la lignée de Seth. Et je vous rappelle que Seth, ça veut dire compensation, parce que Seth est celui qui est venu remplacer Abel qui avait été tué par Caïn. Donc, septième descendant d'Adam dans la lignée de Seth, Seth étant le troisième fils d'Adam et Ève. Et ça, on peut le voir dans Genèse au chapitre 4, le verset 25. De surcroît à cela, Enoch veut dire dédié ou dévoué. Non seulement était-il agréable à Dieu, mais il était aussi un homme qui était dédié et dévoué. Probablement, en fait, que le facteur agréable qu'il y avait chez Enoch était aussi en lien intime avec son dévouement envers Dieu. Enoch est l'arrière-grand-père de Noé, donc septième descendant d'Adam, mais de surcroît cela, l'arrière-grand-père, donc trois générations avant Noé. Enoch va être mentionné cinq fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament à deux reprises, dans le Nouveau Testament à trois reprises. On va le retrouver, pour ceux qui prennent les notes, je vais prendre un peu plus de temps. Mais on va revenir dans ces passages tout à l'heure. On trouve d'abord l'histoire d'Enoch dans Genèse au chapitre 5, du verset 18 au verset 24. Genèse 5, du verset 18 au verset 24. Là, ici, on va nous parler de la généalogie d'Enoch, donc de son père, de sa vie. Et on va nous mentionner aussi son enlèvement, comment il a été pris par Dieu, enlevé par Dieu pour qu'il ne meure point. On va voir aussi parler d'Enoch dans 1 Chronique au chapitre 1, 1 Chronique chapitre 1, du verset 1 à 3. Et ici, c'est une simple généalogie de la lignée d'Enoch. On va parler par la suite dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans Luc au chapitre 3 et le verset 37, Luc 3, 37, une généalogie, encore une fois. Dans Jude, et là je vous dis le chapitre 1, mais Jude ne comporte qu'un seul chapitre. Donc Jude au verset 14 et 15, on va nous parler d'une, on va nous faire mention plutôt, d'une prophétie que Enoch aurait faite. En fait, pas qu'il l'aurait faite, mais qu'il a faite. Une prophétie qu'il a faite durant son vivant. Et enfin, dans Hébreux, au chapitre 11 et le verset 5, tel qu'on l'a lu tout à l'heure, où on le cite parmi donc les héros de la foi. Première distinction que je ferai concernant Enoch est une terminologie qui est utilisée à son égard, qui diffère de celle qu'on a utilisée hier. Hier, concernant Abel, on a vu qu'il était approuvé de Dieu, que son offrande a été approuvée de Dieu et qu'il a été déclaré juste et approuvé du Seigneur. Dans le cas d'Enoch, on pousse la chose encore un peu plus loin. C'est intéressant d'être approuvé par quelqu'un. C'est encore mieux lorsque la personne nous trouve agréable. Approuver est comme un degré inférieur à être agréable. Approuver veut dire que j'ai fait ce qui était bien et j'ai été déclaré juste. Mais au-delà d'être déclaré juste, Enoch, pour sa part, était agréable à Dieu. Abel, en raison de sa foi, va être approuvé de Dieu. Enoch, en raison de sa foi, va être agréable à Dieu. Alors, pour nous, c'est un challenge, c'est un défi qui nous est lancé. Hier, le défi d'Abel, c'était d'être trouvé approuvé par Dieu, d'être trouvé juste ou d'être déclaré juste par Dieu en raison de notre foi. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie Enoch, la prochaine étape à laquelle nous sommes invités à tendre, c'est celle d'être trouvé agréable à Dieu. Ça veut donc dire qu'il est possible pour toi, pour moi, d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être agréable? C'est le terme grec eurestheo, donc E-U-A-R-E-S-T-E-O. Je répète le terme grec, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, eurestheo, donc E-U-A-R-E-S-T-E-O. Et dans le Nouveau Testament, ce terme-là apparaît quatre fois. quatre fois dans le Nouveau Testament, dont deux fois à l'égard d'Énoch. C'est quand même intéressant. C'est un terme qui ne vient pas souvent, donc un terme qui est à une utilisation bien précise. Et parmi le précis ou la précision de l'utilisation de cette terminologie ou de ce vocable, il va être deux fois utilisé concernant un même homme qui s'appelle Enoch. Yoresteo veut dire très plaisant ou pleinement gratifiant. Très plaisant, pleinement gratifiant. C'est quand même intéressant de dire que, encore là, la parole de Dieu avec l'utilisation de ce mot ne nous invite pas simplement à être plaisant et agréable à Dieu, mais à être très plaisant et pleinement gratifiant. Imaginez le potentiel qui habite en chacun d'entre nous. Le potentiel d'être trouvé agréable de Dieu, le potentiel de susciter chez Dieu un plaisir, de susciter chez Dieu une gratification, être pleinement gratifiant pour le Seigneur. Comment je peux être pleinement gratifiant? Ben, en étant celui que Dieu veut que je sois, en recherchant ce que Dieu veut que je recherche, en vivant la vie, et je m'excuse parce qu'il y a le balai mécanique qui passe dans la rue, donc ça fait un peu de bruit, là il s'en va, ça va aller un peu mieux. Donc j'ai le potentiel. Tu as le potentiel en tant qu'enfant de Dieu de devenir très plaisant, pleinement gratifiant pour le roi des rois. Imaginez ce privilège que nous avons. On a été sauvés par Dieu. On a été sauvés par sa grâce, sa miséricorde, à travers la mort et la résurrection de Jésus à la croix, pour nous qui sommes des pécheurs repentants. Et lorsqu'on est sauvé par quelqu'un, que ce soit à la plage, lorsque le sauveteur, le maître nageur, a à intervenir pour sauver la vie de quelqu'un qui est en train de se noyer, on a tout le temps le sentiment d'être redevable envers cette personne et d'essayer de faire plaisir à celle-ci. Très souvent, quelqu'un qui a été sauvé par un médecin, par un sauveteur, par un maître nageur, par un policier, par un pompier, un ambulancier ou autre, très souvent va chercher dans la suite à donner un petit cadeau à cette personne, voire même un grand cadeau, pour souligner toute sa reconnaissance. Il est donc possible pour toi et moi de faire de même avec Dieu. Assurément, aucun d'entre nous ne peut acheter son salut. Le salut est gratuit. Par contre, on peut prouver toute notre reconnaissance envers le Seigneur en devenant les hommes, les femmes qui lui sont très plaisants et très plaisantes, très gratifiants et gratifiantes. C'est l'occasion pour nous de remettre dans la petite partie qui nous incombe, dans la petite partie dont on est capable, de remettre tout de même à Dieu un peu de ce qu'il a fait envers nous. Donc, ingrédient pour lui être agréable. Et c'est là où on va retourner dans les versets où on nous parle notamment de soit du terme agréable, soit de Jude, ce qui le distingue, pas de Jude, mais de Enoch. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un passage dans Jude. Donc, qu'est-ce qui rend Enoch si particulier? Lorsqu'on regarde dans Hébreux 11 et le verset 6, qui nous explique pourquoi Enoch a été trouvé agréable. Si on regarde le verset 5, on nous dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Et le verset 6, l'auteur du livre aux Hébreux, va expliquer comment on peut être agréable à Dieu. Et il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, la première façon d'être agréable à Dieu, c'est donc d'avoir la foi. Et on a vu que la foi dont on parlait ici, ce n'était pas la foi concernant si le fait, si Dieu est capable ou non de nous donner des bonbons, de nous donner des jujubes, de nous donner des gâteries, de nous donner des bonus, voire de nous guérir, de répandre sur nous une bénédiction financière, la santé, un nouvel emploi. Ce n'est pas de ces bénédictions-là qu'on parle ici. Lorsqu'on parle de la foi, et on revient toujours dans ce verset 39 du chapitre 10 d'Hébreux, où on va nous dire la foi qui nous permet d'être sauvés. Donc avoir la foi dans ce processus salvateur que représente la mort et la résurrection de Jésus comme seule et unique option de salut pour le pécheur repentant. Donc si j'ai cette foi, effectivement, que Jésus est venu, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est mort à la croix et ressuscité au troisième jour pour le pardon de mes péchés, desquels je suis repentant et que je confesse, donc à ce moment-là, effectivement, je peux être agréable à Dieu. Donc sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, deuxième ingrédient pour être agréable à Dieu, savoir s'approcher de Dieu. Donc vivre à proximité du Seigneur. Il y a des gens qui veulent avoir une relation avec Dieu, mais à distance. Voire avoir une relation avec Dieu sporadique. Deux, trois fois par année, lorsque Pâques arrive, lorsque la fin de l'année Noël arrive. Peut-être lorsqu'il y a des événements spéciaux dans une église, donc on s'approche, puis on vit notre vie comme on veut, un peu selon nos pensées et nos penchants du cœur. D'autres vont rapprocher cette fréquentation avec le Seigneur à une fois par semaine, en notant que je sois bien le dimanche matin et que je me présente à l'église ou que je me connecte pour étudier avec le pasteur Florent ou le prédicateur du dimanche, ben à ce moment-là, je suis bien. S'approcher de Dieu, c'est plus que ça. C'est vivre en communion, vivre en intimité avec le Seigneur. Et David va dire, j'habiterai pour le restant de ma vie dans la maison de l'Éternel. C'était cette image d'une intimité connue, d'une intimité consommée et d'une intimité qui avait une pérennité, donc qui durait dans le temps. C'était pas quelque chose de sporadique, je m'approche, je m'éloigne, je m'approche, je m'éloigne, je te visite, puis je repars. Non, c'était, voici, je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais habiter dans la présence du propriétaire de cette maison. Je vais habiter dans la présence du propriétaire qui dicte les lois dans sa maison, qui dicte les règlements, la façon d'être, la façon de vivre dans sa maison. Donc c'est donc une idée d'intimité maintenue dans le temps et une intimité de plus en plus profonde avec le Seigneur. Donc s'approcher de Dieu, de surcroît à cela, il faut que celui qui... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc, troisième point, s'approcher de Dieu, mais croire que Dieu existe. Ne pas s'approcher de Dieu avec tout simplement le sentiment, ah ben en espérant qu'il existe. Je disais il y a quelques semaines, je rappelais les propos du premier ministre du Québec. Il y a quelques années, on l'interrogeait à savoir, croyez-vous en Dieu? Et il dit, j'espère qu'il existe. En partant, M. Legault on doit prier qu'il apprenne que Dieu existe vraiment, qu'il expérimente le fait que Dieu existe vraiment. Non seulement M. Legault, mais ne faisons pas de partisanerie, mais pour l'ensemble des candidats aux élections qui arrivent sous peu, qu'on puisse effectivement prier qu'ils apprennent à reconnaître l'existence de Dieu, qu'ils apprennent à expérimenter même l'existence et la présence de Dieu. Mais de surcroît à cela, c'est lorsqu'on revient à notre verset d'aujourd'hui, c'est pas s'approcher de Dieu avec tout simplement la probabilité que Dieu existe, mais s'approcher de Dieu avec cette certitude ineffable, irrévocable, indéniable que Dieu existe réellement, véritablement, véridiquement, et rajouter tous les synonymes que vous voulez pour traiter de la question de vérité. Dieu existe véritablement. Voilà la croyance, voilà l'attitude de celui qui veut être agréable à Dieu. C'est pas genre je teste Dieu pour voir s'il existe. Non, c'est je sais qu'il existe. J'ai pas besoin qu'il me le prouve, j'ai pas besoin d'avoir de confirmation, j'ai pas besoin d'entendre une voix qui descend du ciel, j'ai pas besoin de voir des éclairs qui descendent du ciel, j'ai pas besoin de sentir la terre qui se met à trembler sous moi, j'ai pas besoin d'avoir des frissons ou quoi que ce soit. Je sais, je déclare que Dieu existe. Voilà comment s'approcher de Dieu et lui être agréable. Donc dans ce verset, on voit trois façons d'être agréable à Dieu. Avoir la foi, croire que Dieu existe, s'approcher de Dieu. Dans le passage qui nous parle d'Énoch dans Genèse, voici ce qu'on nous dit. Genèse 5, du verset 18 au verset 24. Genèse 5, du verset 18 au verset 24. La Bible nous dit, Jared, âgé de 162 ans, engendra Énoch. Jared vécut après la naissance d'Énoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans. Puis il mourut. Et là, on passe à Énoch, son fils. Énoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Énoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce qu'il le prit. Revenons au verset 24. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Après avoir eu la foi, après avoir cru en l'existence irrévocable de Dieu, après s'être approché de Dieu, Énoch ici nous donne un exemple qui fait de lui un homme agréable à la pensée de Dieu. Énoch marche avec Dieu. Il a donc un cheminement avec le Seigneur. Il marche côte à côte avec Dieu. Il marche sur le chemin que Dieu ouvre devant lui, il marche à la vitesse que Dieu veut de lui, il marche en la direction que Dieu fixe pour lui. C'est un peu comme quand vous allez dans une randonnée et vous avez un guide. Il y a quelques années, pour mon anniversaire, Daphné, sachant que j'ai une passion toute particulière pour la Chine, mais ne pouvant pas nous permettre un voyage jusqu'en Chine, elle m'a fait un des plus beaux cadeaux que j'ai eu l'occasion d'avoir de toute ma vie. C'était une visite guidée du quartier chinois de Montréal. Une visite guidée merveilleuse. On est allé dans des petits coins que je ne connaissais pas du quartier chinois, alors que régulièrement, à chaque année, je vais aller faire deux, trois petits tours le matin avant de venir à l'église durant la semaine. Je vais m'arrêter, je vais marcher dans le quartier juste pour voir comment ça se passe, juste pour prier pour ce quartier et ce peuple qui me tient à cœur. Et là, Daphné avait donc payé une visite guidée du quartier chinois avec un guide professionnel, un guide touristique professionnel. Et lui nous a amenés pas à pas dans différents endroits. Mais savez-vous que pendant ces deux ou trois heures qu'a duré la visite, j'ai suivi le guide. Ce n'est pas moi qui ai établi, voici on va à droite, puis on va à gauche, puis on s'arrête devant tel monument, puis on rentre dans tel édifice, et on va visiter tel autre édifice, et on va visiter tel autre organisme. Non, c'est lui qui a établi la route, qui a établi le trajet, et moi, j'ai suivi. Lorsqu'on parle d'Énoch, qui a marché avec Dieu, il y a cette même pensée d'Enoch qui suit les pas de Dieu. Enoch qui suit le rythme de Dieu. Enoch qui marche dans la même direction que Dieu emprunte. Et pour nous, ça devrait être la même chose. Donc, un autre ingrédient pour être agréable à Dieu, donc marcher avec Dieu. Dans Hébreux 11, si on revient à Hébreux 11, le verset 6, on nous dit par la suite, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Avoir la foi, croire que Dieu existe, s'approcher de Dieu, marcher avec Dieu et croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur n'est pas un terme usuel dans la langue française. En fait, le rémunérateur est celui qui donne le salaire, celui qui distribue le salaire. Lorsqu'on écrit ce texte du livre aux Hébreux à l'époque, on avait encore très coutume d'avoir des employés qu'on appelait des journaliers. Donc des gens qui venaient et qui étaient engagés simplement pour la journée. À la fin de la journée, ils allaient voir quelqu'un assis à une table qui avait pris note de leur travail et qui leur octroyait un salaire pour la journée passée au travail dans le champ ou dans l'entreprise du patron. Donc, il y avait quelqu'un qui donnait le salaire. Il y avait quelqu'un qui rémunérait le travail exécuté. C'est une chose d'avoir la foi. C'est une autre chose de croire que Dieu existe. C'est une autre chose de s'approcher de Dieu. C'est encore une autre étape de marcher avec Dieu. Et plus encore, au-delà de marcher avec Dieu, il nous faut donc servir Dieu. Il n'y a pas de rémunération s'il n'y a pas de travail. Et ici, lorsqu'on parle donc qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, on nous parle donc de ceux qui travaillent pour Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui travaillent pour Dieu. Il y avait quelque chose qui tombait. Donc, nous, encore aujourd'hui, nous sommes appelés à servir Dieu. J'ai souvent l'occasion de dire que nous ne sommes pas créés par hasard. Nous sommes créés selon la pensée de Dieu, dans l'objectif de Dieu, et chacun d'entre nous avons un plan qui a été fixé par Dieu pour notre vie. Encore faut-il que nous accomplissions dans notre vie ce que Dieu voulait que nous fassions de notre existence. Alors, si nous le faisons, effectivement, nous serons rémunérés en conséquence. Et ici, on nous parle donc de servir Dieu. Un ingrédient pour être agréable à Dieu, croire effectivement qu'il va rémunérer ceux qui le servent. Donc, servir Dieu avec cette assurance qu'il prend soin de nous. Lorsqu'on va dans Jude, au verset 14 et 15, je vous rappelle que Jude n'a qu'un seul chapitre, donc Jude 14 et 15, ou Jude verset 14 et 15, nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux tous, les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Enoch a été amené à faire une prophétie. Et dans cette prophétie, que faisait-il? Il annonçait le jugement de Dieu contre les pécheurs, le jugement de Dieu contre les impies, contre le pécheur non repentant et contre le péché. Et il est de notre devoir aussi d'annoncer qu'il y a un jugement divin qui s'amène, un jugement divin qui s'approche. Malheureusement, il y a des gens, oui, qui vont parler du jugement divin, mais qui ne parleront pas du sauveur divin. On ne peut pas parler du jugement divin en omettant le message de salut par la grâce. En fait, le salut par la grâce, n'a aucune raison d'être s'il n'y a pas de jugement. Alors, si on veut aborder l'un ou aborder l'autre, il nous faut faire un ensemble et parler concrètement que oui, tout homme est pécheur, de par sa nature, de par sa naissance, depuis le péché originel d'Adam et Ève. Chacun d'entre nous méritons la mort éternelle en raison de notre nature pécheresse et de nos actions qui ont offensé Dieu et qui se sont levées et liguées contre Dieu, mais que Dieu, dans sa grâce, dans sa compassion, dans sa passion et son amour envers nous, a pourvu un sauveur, Christ Jésus, Dieu fait homme, mort et ressuscité pour le salut du pécheur repentant. Alors il est agréable à Dieu, ou un homme va être trouvé agréable à Dieu, lorsqu'il annonce, lui aussi comme Enoch l'a fait, un jugement contre l'humanité, mais aussi un salut pour l'humanité à travers la mort et la résurrection de Christ, profitable pour le pécheur qui se repent de ses péchés. Dernier point, dernier ingrédient pour être agréable à Dieu. Et ici, on ne parle plus d'Enoch, mais on parle du terme agréable, eurestéo. Je vous ai dit qu'il apparaissait 4 fois dans le Nouveau Testament, dont 2 fois où on nous parle d'Enoch, mais on le retrouve par la suite dans 2 autres versets. Tout d'abord, dans Hébreux au chapitre 13, le verset 6. Hébreux 13, le verset 6, nous dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est avec de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, offrir des sacrifices à Dieu qui lui soient agréables, dans lesquels il prend plaisir. Plaisir, ici, c'est le terme eurestéo, encore une fois, qui veut dire volonté, qui veut dire aussi chose agréable à Dieu, eurestéo. Donc ici, on nous dit, non seulement faut-il avoir la foi, non seulement faut-il croire que Dieu existe, non seulement faut-il s'approcher de Dieu, non seulement faut-il marcher avec Dieu, non seulement faut-il croire qu'effectivement Dieu va récompenser le travail de ses serviteurs actifs, croire aussi qu'il est important d'annoncer que Dieu va juger l'humanité et que c'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de propager ce message et de parler du Sauveur qui nous est offert, et enfin, faire preuve de bienfaisance et de libéralité. On ne s'étendra pas beaucoup là-dessus, mais la bienfaisance et la libéralité se manifestent par différentes façons, dont le soutien, oui, financier envers une église. Lorsqu'on est membre du corps de Christ, il est de la responsabilité du corps de Christ et des membres du corps de Christ à veiller à ce qu'effectivement, il y ait des fonds dans l'église pour prendre soin des frères et des sœurs et pour vaquer donc aux activités ministérielles et aux activités de l'Église. De surcroît à cela, faire preuve de bienfaisance et libéralité envers nos frères, envers nos sœurs, envers les gens qui sont dans le besoin. Dernier point pour aujourd'hui, et je sais qu'on a dépassé un peu, la question, qui peut être agréable à Dieu? Ou qui devrait être agréable à Dieu? Et ça, on retrouve pour un dernier point aujourd'hui, le terme eurestéo, agréable à Dieu, on le retrouve dans un verset d'Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse 4, le verset 10 et 11. On nous parle des 120 vieillards. Et on nous dit au verset 10, les 24 vieillards. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Car toutes choses, tu les as créées et c'est par ta volonté, et volonté ici c'est le terme iuresteo, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, c'est par sa volonté, iuresteo, c'est pour son plaisir, c'est pour son plein, sa pleine approbation et sa pleine gratification dans le bon sens du terme. Ça veut donc dire que tout ce qui existe, moi, comme l'ensemble de la création, devrait servir à amener plaisir à Dieu, devrait être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'entre nous, personne qui nous écoute ce matin, qui, d'une part, n'a pas été créé avec le potentiel d'être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous n'a été créé sans avoir le potentiel en soi d'amener du plaisir à Dieu et d'être trouvé agréable. Mais de surcroît à cela, chacun d'entre nous, nous tous, avons été créés avec ce mandat de faire la volonté de Dieu et donc d'être agréable à Dieu. Qu'avons-nous vu ce matin? On a vu à travers quelques versets qui nous parlent d'un homme peu connu dans la parole de Dieu. On n'a pas l'ensemble du vécu d'Enoch. C'est pas comme David, Samuel, comme Josué, comme Moïse, comme Abraham, Jacob, Isaac, Ésaü. On n'a pas l'ensemble de leur vécu. On a simplement quelques versets qui nous parlent d'Enoch. Mais on nous parle de lui, d'un homme qui a été trouvé agréable. Et on a vu aujourd'hui que pour être agréable à Dieu, il fallait avoir la foi qu'il n'y a qu'un seul sauveur pour le pécheur repentant, un sauveur qui partage ce salut à travers le sacrifice qu'il a accompli à la croix et la résurrection qu'il a connue au troisième jour. Il faut, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe. Ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une possibilité, c'est une vérité absolue et irrévocable. Il nous faut nous approcher de Dieu. Simplement croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. Il nous faut effectivement veiller à s'approcher de lui et à s'approcher toujours davantage de lui. Il faut savoir marcher avec Dieu, un peu comme celui qui suit le guide touristique lorsqu'il visite un endroit qu'il ne connaît pas. Il nous faut croire que Dieu est effectivement celui qui va récompenser, qui va salarier, qui va octroyer un salaire à celui qui travaille pour lui. Donc savoir que tu n'es pas simplement un touriste qui fait la visite des lieux, mais que nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Croire qu'il est aussi primordial d'annoncer le jugement de Dieu contre le péché, mais le salut qui nous est offert gratuitement à travers la mort, la résurrection de Christ. Et enfin, faire preuve de bienfaisance et de libéralité. Et à qui est adressé ce mandat d'être agréable à Dieu? À tout ce qui a été créé, à tous ceux qui ont été créés, toi, moi, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous succéderont. Personne ne peut se défiler de ce mandat. Personne ne peut dire cet appel n'est pas pour moi. Il est effectivement pour nous tous. Alors je prie pour toi ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu puisses entendre ces paroles et faire tout ce qui est en ton possible pour être agréable à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour cet autre passage ce matin qui nous parle de comment être agréable. À travers l'exemple de la vie d'Enoch, à travers le peu de choses qu'on sait de lui, nous apprenons ce qui a fait la différence dans son existence. Comment il t'a plu, comment il t'a été agréable et comment, Seigneur, tu l'as béni en conséquence. Alors je prie, Seigneur, qu'il en soit de même pour ma frère, pour mon frère, pour ma sœur, pour nos bien-aimés qui nous écoutent ce matin. Je prie pour moi-même, Seigneur, avec l'existence que tu m'as donnée, avec la vie que tu m'as accordée, avec le souffle de vie qui m'habite encore. Je prie, Seigneur, de t'être agréable à travers mes paroles, à travers mes actions, à travers ce que je poursuis, à travers mes ambitions, à travers, Seigneur, ma proximité avec toi, à travers le message que je partage, à travers le travail que je fais pour toi, et à travers, Seigneur, la bienfaisance et la libéralité, Seigneur, que je manifeste. Je prie, Seigneur, que ma vie, que mon existence tout entière puisse être agréable. Qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma sœur, que nous puissions, dans cette journée, faire le plus, faire le supplément par rapport à hier pour t'être encore plus agréable. Et que demain, tu nous inspires encore une fois de plus afin d'être encore davantage agréable à toi et à ton regard. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre merveilleux, merveilleux, merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines bénédictions matinales. On a quand même rendez-vous ce soir pour la prière à 19h sur la page Facebook de l'Église. Donc, je serai depuis la maison. On espère que la diffusion se passera comme il faut à 19h ce soir. Sinon, on se retrouve ce dimanche pour notre culte régulier et lundi prochain pour notre prochaine bénédiction matinale. Ça sera donc une cinquième leçon que nous verrons avec les versets 7, notamment, du livre du chapitre 11 aux Hébreux. Alors, sur ce, passez une bonne journée ce soir, 19h, sur Facebook pour notre temps de prière et d'intercession. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.